Reconnue centre d'information depuis 2007, la Maison de l'Europe en Mayenne vous propose l'émission Instant Europe.
Il y a un an, ils ont quitté leur pays, un sac sur le dos, des mots de français dans la poche et un peu de trac peut-être au creux du ventre. Ils ont traversé l'Europe pour venir vivre une aventure humaine, solidaire, en plein cœur de la Mayenne. Aujourd'hui, c'est presque l'heure du départ. Alors, qu'est-ce qu'on emporte avec soi après un an de volontariat? Qu'est-ce qu'on laisse? Et comment regarde-t-on le monde quand on a choisi d'en faire partie autrement à travers le corps européen de solidarité? Dans cette émission, on revient sur cette année particulière aux côtés de 6 volontaires venus d'ailleurs installés ici pour un temps. À mon micro aujourd'hui, vous entendrez Elena, Lutza, José, Jutte, Alba et Julia, et puis aussi Ingrid de la Maison de l'Europe en Mayenne, qui les accompagne dans ce voyage. Récit de vie, découverte, doute, petit choc culturel lien tissé et envie d'avenir. Une heure pour écouter ce que la solidarité, quand elle traverse les frontières, fait naître ici comme ailleurs. Pour commencer, Ingrid, j'ai envie de me tourner vers toi. Est-ce que tu peux nous rappeler tes missions au sein de la Maison de l'Europe?
Je coordonne le projet CES à la Maison de l'Europe et donc sur le département de la Mayenne.
Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est le CES, donc le Corps Européen de Solidarité, à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler?
Le Corps Européen de Solidarité, c'est un programme de volontariat qui permet aux jeunes de 18 à 30 ans de partir faire une mission dans une asso ou une école ou une collectivité dans un des pays de l'Union Européenne ou dans un des pays partenaires du programme.
Qu'est-ce qui distingue le CES d'un simple stage ou d'un service civique national?
C'est un programme qui est pris en charge par l'Union européenne et les jeunes n'ont aucun frais à dépenser de leur poche. Tout est pris en charge par l'Union européenne, le transport, l'hébergement, l'assurance santé. Donc c'est plus avantageux financièrement qu'un service civique national ou international, puisque tout... Enfin, il n'y a aucune charge qui reste aux jeunes.
Est-ce qu'on peut rappeler le type de mission proposée aux jeunes dans ce cadre, même si on va entendre évidemment les jeunes nous expliquer ce qu'ils font?
Oui, les missions, elles sont très variées. Pour ceux qui connaissent le service civique, c'est un peu les mêmes missions qui sont proposées, mais c'est beaucoup de choses dans l'animation avec les enfants. Ça peut être dans l'écologie, avec les animaux, le sport, les personnes en situation de handicap, les réfugiés. Voilà, c'est très varié.
Comment sont sélectionnés les jeunes qui viennent ici? Est-ce que ce sont eux qui choisissent la Mayenne ou est-ce que c'est plutôt l'inverse?
En fait, on met les offres en ligne sur le portail européen de la jeunesse et ce sont les jeunes qui candidatent au poste qui les intéresse, soit en fonction de la mission, soit en fonction du pays. Voilà.
Est-ce que tu peux nous dire quelques mots peut-être sur les structures partenaires locales qui accueillent ces volontaires?
Alors cette année, on avait 5 partenaires, donc l'Habitat Jeune de Laval, l'Iliade Habitat Jeune de Château-Gontier-sur-Mayenne, le Nulle Part Ailleurs à Cran, la MFR de Cran et l'ensemble scolaire Don Bosco à Mayenne.
Pour toi, à ton avis, pour terminer, qu'est-ce qu'un territoire gagne justement à accueillir ces jeunes venus d'ailleurs? Qu'est-ce que toi tu constates au quotidien?
Ben, c'est une énorme ouverture à l'étranger, à l'international. C'est vrai que je pense qu'en Mayenne, on n'est pas forcément... le département le plus ouvert à la mobilité à l'étranger, où quand je rencontre beaucoup de jeunes mayennais qui me disent bah, pourquoi je devrais partir, pourquoi partir, quel est l'intérêt, moi j'ai tout ici. Donc je pense que leur permettre de rencontrer des jeunes européens qui ont eu l'expérience de la mobilité, qui peuvent parler du projet, ça peut permettre une ouverture d'esprit et peut-être une envie ensuite de découvrir aussi ailleurs.
Et oui, vous écoutez bien l'émission Instant Europe. On comprend un peu mieux de quoi il s'agit quand on parle de corps européen de solidarité. Dans quelques instants, on va justement donner la parole à nos jeunes. Mais avant ça, je vous propose une première pause musicale. On écoute Parachute de Sean O'Nolenon.
I'd rather be with you.
Instant Europe, c'est l'émission en partenariat avec la Maison de l'Europe en Mayenne. Et aujourd'hui, on vous parle du Corps européen de solidarité.
Moi, je suis Alba, je suis espagnole. Et j'ai entendu parler du Corps européen de solidarité à l'université. Donc, avec ça, et les profs m'a donné envie de partir.
Bonjour, je m'appelle Jutta, je viens d'Allemagne et moi je voulais contribuer quelque chose à la société et je voulais améliorer mon français, donc je choisis de faire un corps européen de solidarité en France. Et oui, je choisis Laval parce que c'est moins touristique et je voulais vraiment découvrir un nouvel endroit.
Et toi, José, est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens et ce qui t'a donné envie de partir avec le Corps européen de solidarité?
Tout d'abord, moi, je m'appelle José, je viens de l'Espagne. Et ce qui m'a donné envie de venir ici en France, c'était plutôt le français. Moi, j'avais besoin d'apprendre à parler français pour des raisons professionnelles. Et j'étais pas bien du tout au début, donc je me suis dit que la meilleure façon d'apprendre français, c'est de déménager et passer quelques temps ici en France, au Hexagon.
Et alors j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui vous a le plus marqué lors de votre arrivée en France?
Je me souviens que le premier jour de travail, ma collègue Sophie était là et elle m'avait dit « Est-ce que tu parlais français ?» Il y a dit « Un petit peu ». Donc elle a commencé à parler trop trop vite et elle a dit à tout « Oui, j'ai compris un mot ». Il n'y a pas compris un mot. Oui, ça, c'est mon anecdote.
Oui, pour moi, c'était trop dur avec le « ça va » parce que dans l'école, on a appris qu'on doit dire « ça va, oui, ça va bien, et toi ?» Mais ici, ils disent toujours « ça va » et seulement « ça va » et pas grand-chose. Et ça m'a confusé beaucoup et je ne savais jamais ce que je dois répondre. Et donc, je dis « ça va aussi ». Oui, je sais pas.
Moi, ici en France, j'ai remarqué au début que la politesse en France, c'est très important. Vous dites salut, bonjour, mais peut-être dans deux façons différentes. Et pour dire au revoir, vous dites au revoir, bonsoir, vous faites des précisions pour les moments de jour quand on est dans les moments. Si c'est fin d'après-midi, c'est pas bon après-midi, c'est bon fin d'après-midi, bonsoir, bonne nuit. Ça peut aussi. Mais bon, c'est une chose qui m'a marqué. Bon, mais on dit juste au revoir. Au revoir et à bientôt. Mais on ne dit pas trois ou quatre formules de politesse. C'est ça une chose qui m'a marqué un peu.
J'ai envie que vous me parliez de la structure dans laquelle vous êtes et quelles sont vos missions.
D'accord. Donc moi, dans mon cas, et aussi les autres volontaires, je travaille en tant qu'ambassadeur de l'Europe, mais mon mission se roule en Habitat Jeune Laval. Il s'agit d'une association de logements pour les jeunesses. Et mon mission, c'est de travailler dans l'équipe d'animation avec mes collègues. Et là, on organise d'animation, des soirées. Et de temps en temps, je fais des animations par rapport à l'Europe pour montrer les principes et tout. Alors que, bon, que j'aide aussi dans les travaux courants à la résidence.
Moi, j'ai fait ma mission à la Maison de l'Europe. Et là, j'ai fait des activités, des événements sur l'Union européenne, la culture européenne, l'Espagne, bien sûr, et c'est pour les enfants, les adolescents et les adultes. Surtout, on essaie de promouvoir la mobilité européenne avec le Corps européen de solidarité et avec des autres mobilités.
Oui, moi, je fais mon volontariat à l'ensemble scolaire de Don Bosco à Mayenne. C'était dans une lycée et aussi collège. Et là-bas, je fais des présentations sur l'Europe, sur l'Allemagne. Et j'étais souvent au CDI et je fais des affiches et parler avec des élèves sur la mobilité. Et oui, j'ai essayé de motiver eux d'aller d'ailleurs, de découvrir un nouveau endroit. Et aussi, oui, j'ai aidé dans le cours allemand.
Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans la culture française, dans la façon de vivre ici?
Avant la politesse, donc je vais dire à ma tête, la politesse ici, c'est très important. Et aussi même, j'avais oublié de dire, même dans le magasin, quand on entre dans les magasins, le langage, c'est très, très formel. Il faut parler de vous et tout. Et bon, il faut faire attention parce que c'est très important.
Et pour moi, c'était qu'ici en France, les gens sont plus silencieux qu'en Espagne. Par exemple, en Espagne, un dimanche après-midi, tout le monde est dans la rue et des personnes sortent pour se promener ou quelque chose. Mais ici en France, un dimanche après-midi, il n'y a personne à la rue. Et tout est en silence, c'était un surprise.
Justement, au moment où on se parle, Lutza et Lena nous rejoignent et s'installent avec nous autour de la table.
Je m'appelle Lutza et je viens de Hongrie. Je travaille à Caen, au Nouvelle Parière. Et oui, j'habite ici à Laval avec les autres volontaires. J'ai visité la France deux fois en 2022 avec... Un programme avec un échange interculturel et j'étais dans le même village où je travaille actuellement et oui, j'aime bien, j'ai trouvé le village très cool, du coup je sais que je voulais revenir. En gros, j'aide les animateurs à préparer des activités et des ateliers. Et je participe aux activités pendant les vacances scolaires avec les jeunes.
Je m'appelle Elena, j'ai 20 ans et je suis italienne. J'ai voulu faire ce volontariat parce que je voulais connaître des nouvelles personnes. Je voulais visiter la France aussi parce que j'ai jamais eu l'occasion de venir ici en France. Donc pour moi, ça a été une bonne opportunité pour découvrir la France, connaître des nouvelles personnes et d'améliorer mon français aussi. Maintenant, je travaille à la maison de l'Europe, pardon. il y a une semaine, j'ai travaillé encore à la maison familiale rurale de Loudon, à Cran. Donc c'est une école, un lycée, pardon, avec un internat aussi. Oui, je travaillais là-bas, je faisais des animations pour les élèves, je faisais des cours d'anglais pour les élèves et les adultes aussi. Je faisais des présentations sur l'Italie, des caouts aussi, c'est des quiz pour sur l'Italie et aussi sur différents sujets, par exemple sciences, français, histoire, géographie aussi. Oui.
Elena, quelque chose t'a marqué en particulier dans la culture française quand tu es arrivée ici?
Peut-être la gastronomie. Bon, je dirais pas bon, mais pas ma préférence. En Italie, il y a des régions où on mange du canard, du lapin, mais moi, dans ma région, on n'est pas trop. Donc, quand je suis venue ici, le canard, le lapin, c'était un peu bizarre pour moi. Et après, je n'aime pas trop forcément le pâté de viande, ouais.
C'est vrai qu'on est en zone rurale en plus ici.
Donc pâté, raclette, ces trucs-là, c'est un peu... Ouais, c'est un peu bizarre.
Et alors là, je m'adresse à vous tous. Est-ce que vous avez eu des fois des moments de doute, des difficultés particulières peut-être à surmonter?
Oui. Pour moi, c'était plutôt au lycée, trouver ma place parmi mes collègues aussi. Je ne savais pas trop... comment dire, si j'étais plus proche aux élèves ou à mes collègues, parce que en âge j'étais plus proche aux élèves carrément, mais ma position était plus proche collègue, professeur, donc je ne savais pas trop comment me rapporter. mais à la fin, tout s'est bien passé. J'ai réussi à m'intégrer, à me faire bien vouloir, ça se dit comme ça, oui. Oui, par soit les élèves que mes collègues. Oui, j'ai réussi à trouver ma place, quoi.
Et alors, avant qu'on commence cet entretien, Elena, tu nous as confié qu'il y avait aussi ce moment de l'arrivée. Avant de prendre ses repères, il y a un petit moment d'instabilité, un moment pas forcément évident, mais ça ne dure pas vraiment.
Oui, alors pour moi, c'était 2 semaines. C'est pas le temps pour... C'est pas pour tout le monde, quoi, comme ça. Ça dépend de la personne. Mais voilà, pour moi c'était 2 semaines, et mais après j'ai pris confiance en moi, j'ai pris confiance à parler aussi avec les gens, donc voilà, oui.
Des moments de doute, des difficultés particulières.
Bon, c'était pas un moment des doutes, mais pour m'adapter, je crois que j'avais mentionné avant que c'est pour moi c'était surtout au niveau des horaires pour manger. Parce que, bon, comme tout le monde sait, savent qu'en Espagne, on mange un peu plus tard que les restes des Européens. Peut-être, sauf le sud de l'Italie. Là, on a un horaire facile. Similaire, on peut dire. Bon, je me rappelle que les premiers jours, ici à la résidence, on a une cantine. Il y avait une et deux fois que je suis descendu à la cantine à manger. Il était déjà fermé, donc ça c'était un peu difficile parce que c'était un erreur que j'ai fait pas une, mais 2 fois ou 3. Mais bon, après d'avoir été ici pour 2 semaines, je m'avais déjà habitué, j'ai commencé à manger à 13h, 2h30 pour le dîner à 19h, que c'est l'heure que les restaurants ouvrent. Donc c'est ça, c'était un peu on peut dire la situation que j'ai trouvée la plus dure, mais bon, c'est pas grave.
Tu peux nous rappeler à quelle heure tu manges en Espagne?
Bon, ça dépend aussi du moment, parce qu'en été, on fait tout un peu plus tard. Mais en été, on peut manger à 14h30, 15h, ou même j'ai mangé à 15h30. Donc là, on fait la sieste en été. Et puis pour le dîner, on mange 21h30, 22h, ou même 22h30, ça dépend. Mais c'est aussi parce que c'est influencé ensuite pour la chaleur. Donc ça change un peu notre rythme ou allure de vie.
Pour moi, mes moments de difficulté, c'était peut-être les premiers mois et aussi les deuxièmes, parce que j'ai travaillé avec des enfants et il n'y avait pas la formation pour faire ça. Donc il y a dû rechercher sur Internet, il y a aussi demander à ma sœur qui est prof des conseils, des activités à faire. Donc les premiers mois c'était un peu difficile pour par rapport à les activités avec les enfants.
Pour moi c'était peut-être la langue. J'ai eu la langue française dans l'école, mais après c'est très difficile, trop différent quand les gens français pas vraiment, parce qu'il parle vraiment vite, et à l'école aussi avec le mot spécifique, j'ai pas vraiment tout compris, mais ça a amélioré avec le temps, avec le temps j'ai compris plus, et oui, aussi avec le mot spécifique, par exemple par rapport à l'Union européenne, c'était dur parce que je savais pas, même pas en allemand peut-être, et en français c'était plus dur.
Pour moi aussi c'était probablement la langue, parce que j'ai pas eu vraiment l'opportunité d'apprendre français avant. Du coup, quand je suis arrivée, je parlais pas du tout français. Juste vraiment de base. Mais maintenant, je pense que je comprends presque tout. Pas les ados, parce qu'ils parlent très 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 vite et ils utilisent beaucoup de mots différents, les gros mots évidemment. Et j'ai pas vraiment appris ça.
Dans quelques instants, on continuera un peu le bilan de cette année de volontariat européen. Mais avant ça, on va refaire une petite pause musicale et on va écouter Théodora, Il mûrit tout sonné. Écoutez.
J'ai souvent trop donné, il mérite tout sonner. Quand je les traite en gras, ils disent qu'ils m'avaient pas sonné. Pourtant, je suis juste passionnelle, au point d'en perdre sommeil. Si je t'aime et que ça va pas, sans te demander, je te passe mon aile. Mais comme moi, personne n'aime, toi non plus, rien de personnel. Tes messages donnés par sommeil, donc je le plaie de bon sommier. Pourtant, je suis juste passionnelle, au point d'en perdre sommeil. Si je t'aime et que ça va pas, sans te demander, je te passe mon aide. Pourtant, je suis juste passionnelle, au point d'en perdre sommeil. Si je t'aime et que ça va pas, sans te demander, je te passe mon aide. Super relation pour une raison. Moi, je suis une garçonnée, un peu trop garçonnée. Méchante à cause de la pression qui me monte au nez. Trop gentil, tous me frappent. C'est moi qui ai tendu le putain de bâtonnet. Stationne devant mon cœur et vide de sonner. Les problèmes ont déjà fait peur au sommeil. Mon cœur est resté seul plusieurs longues semaines. Pourtant, je pleurais, personne n'a tendu sa main. Mais comme moi, personne. Toi non plus, rien de personnel. Tes messages donnent hyper sommeil, donc je le plaide et le bon sommeil. Pourtant je suis juste passionné, au point d'en perdre sommeil. Si je t'aime et que ça va pas, sans te demander, je te passe mon aile. Pourtant je suis juste passionné, au point d'en perdre sommeil.
Vous écoutez toujours l'émission Instant Europe en partenariat avec la Maison de l'Europe en Mayenne. C'est toujours sur l'autre radio, 107.9 à Château-Gontier, puis 101.7 à Laval. Aujourd'hui, on parle du corps européen de solidarité. Et alors, on est avec des jeunes qui ont pu, durant un an, vivre en Mayenne et vivre cette expérience. Et donc, justement, j'ai envie de continuer cette émission en vous demandant, est-ce que cette expérience de volontariat a changé peut-être le regard que vous aviez sur l'Europe ?
Pour moi, j'avais déjà une vision très positive de l'Union européenne. Et avec cette expérience, et surtout avec les programmes de corps européen de solidarité, ça a amélioré. Et surtout parce qu'on a rencontré des personnes du Royaume-Uni et on a expliqué les programmes. Et ils ont dit que c'est tout gratuit, tout financé par l'Union européenne. On peut voyager presque gratuitement. Et ils ont dit, mais pourquoi on a quitté ça? Donc, c'est juste très content de que mon pays fait partie de l'Union européenne.
Pour moi, c'est pareil. C'est pas, il n'y a pas changé, il y a plutôt renforcé, je crois, l'idée de le projet européen. Dès que j'ai commencé mon volontariat, j'étais en contact avec l'Union européenne plus que jamais. Ils vont en rencontrant des nouvelles personnes, en lisant beaucoup de nouvelles, en lisant les journaux et tout, finalement, ça, surtout en travaillant en contact avec l'Union européenne, ça m'a permis de renforcer mon idée sur ces projets. Et bon, on ne sait jamais, bon, peut-être dans le futur, j'aimerais travailler dans l'Union européenne.
Est-ce qu'il y a une compétence, une qualité, une confiance que vous sentez avoir développée grâce à ce volontariat ?
Avant que j'étais en Italie, j'étais beaucoup... dans ma coquille, on peut dire. J'étais confortable chez moi. Je ne sortais pas trop. Je ne parlais pas trop aux gens, même si c'était avec ma langue maternelle, quoi. Donc, ici, je dois parler avec beaucoup de gens que je ne connais pas carrément. Donc ici à la résidence ou même au travail. Donc voilà, ici j'ai réussi à prendre plus de confiance en moi, à parler à gens, à de nouvelles personnes. Et je peux aller dans la rue demander des informations, oui, des renseignements. J'ai plus peur. Avant, ça me stressait un peu.
Oui. Bon, je peux juste ajouter qu'en organisant des activités dans les animations, et surtout quand quelqu'un habite dans une résidence, moi j'étais au contact avec des jeunes, et quand j'organisais des animations, il fallait, on peut dire, gérer ces activités et parler en public. Donc ça, c'était une qualité que je peux dire que j'ai amélioré mon parole en public, on peut dire. Et mon confiance, voilà, en parlant en public, on peut dire.
Moi, j'ai amélioré mes compétences linguistiques. Au début, quand je suis arrivée, je ne parlais pas vraiment français. Je pouvais comprendre, mais pas vraiment parler. Donc à la fin, j'ai réussi les BD en français. Et c'est ça que y a gagné ici. Et mais les volontaires m'a aidé beaucoup parce que surtout mes missions sont devant, avec public et tout ça. Et ça m'a fait gagner aussi des confiances pour parler dans une autre langue.
Qu'est-ce qui vous attend ensuite? Là, le volontariat arrive à sa fin. Est-ce que vous entrez dans le monde professionnel? Est-ce que vous avez d'autres projets?
Pour moi, en septembre, je commence les masters à l'université sur l'Union européenne et la politique de Méditerranée. Et après ça, on verra. Mais pour l'instant, pour les prochaines années, je suis occupée avec le master.
D'abord, je veux voyager beaucoup, encore une fois. Je veux visiter les autres volontaires, les autres pays, les autres personnes que j'ai rencontrées ici. Quand nous avons dit, nous avons rencontré du monde ici à Laval, des amis de Kenya, du Nigeria, du Hongrie, Royaume-Uni ou même les États-Unis. Donc on a beaucoup des endroits pour visiter. Et après, je veux commencer mes études. Je veux faire mes études dans le domaine de politique, peut-être les relations internationales ou les études européennes. Je ne suis pas encore sûre, je pose ma candidature pour plusieurs choses et je verrai ce que va aller.
À mon retour en Hongrie, je vais commencer l'université aussi en biologie et j'espère que j'aurai la chance de visiter les autres volontaires et des amis que j'ai rencontrés ici.
Si un jeune venait vous voir et vous disait « j'ai envie de partir, mais j'ai peur », qu'est-ce que vous auriez envie de lui répondre ?
Moi, je lui dirais que c'est normal d'avoir peur, parce que tout le monde a peur. Surtout si tu es jeune et si tu as toujours habité avec tes parents, tu n'as jamais quitté ta maison. Et peut-être, voilà, tu n'es jamais... Tu n'es jamais parti visiter un autre pays pour longtemps. mais je lui dirais que s'il a vraiment, vraiment envie de voyager, de visiter, s'il a une curiosité, une très grande curiosité pour une autre culture, je lui dirais de partir. Parce que la vie est une, donc il faut la vivre.
Moi, je dirais n'hésitez pas, parce qu'à la fin, tout le monde a peur. Et la peur, ça dure seulement les trajets en avion. Après, tu vas rencontrer des personnes qui sont dans la même situation que toi. Et vous allez partager des expériences et vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas toute seule.
Tu vas avoir le meilleur souvenir de cette expérience et aussi je suis sûre que ça va être la meilleure partie de ma vie aussi.
Si quelqu'un est curieux, veut voyager, rencontrer des gens de plusieurs pays, et jeune qui si quelqu'un a l'âge entre 18 et 30 ans, il faut aller. C'est une très grande opportunité et vraiment, je pense que si quelqu'un parle au moins anglais, ils vont pas... il faut aller. Il faut aller.
Strong enough to dare. And I have this dream blooming in my head, where I'm a young boy believing in my fate. And when it gets tough, I keep believing it's my place.
Vous êtes toujours sur les ondes de l'autre radio 107.9 à Château-Gontier puis 101.7 à Laval. L'émission que vous écoutez, eh bien, c'est Instant Europe en partenariat avec la Maison de l'Europe en Mayenne. Et alors donc aujourd'hui, on parle du corps européen de solidarité. Et alors j'ai envie de me retourner vers toi Ingrid, toi qui travailles à la Maison de l'Europe. De votre côté, est-ce que vous avez des retours, des structures d'accueil et des habitants concernant ces volontariats qu'ils accueillent sur le territoire ?
Des Mayennais, c'est vrai que j'en ai pas forcément énormément, mais les structures nous disent toutes que ça permet vraiment une ouverture à l'international. Ça permet aux jeunes qui fréquentent les structures, parce que nous on est plutôt avec des structures avec des jeunes, mais donc aux jeunes qui fréquentent les structures de se rendre compte des possibilités qu'il y a à l'étranger, de se rendre compte que bah, l'étranger c'est pas quelqu'un forcément de différent de nous. Ouais, c'est ça, une ouverture d'esprit et une découverte de ce qu'ils peuvent faire plus tard, en sortant de leur territoire natal.
Et alors justement, Michel Ferron, vous êtes l'ancien président de la Maison de l'Europe, vous êtes à mes côtés depuis le début de ces échanges, et vous aviez envie d'ajouter quelque chose sur ce que ça apporte à un territoire, d'accueillir ces volontariats?
Un, il s'enrichit. Il s'enrichit. Et aujourd'hui, dans cet univers où on refuse l'autre, on refuse l'étranger, dans une problématique de migration qui est épouvantable, on voit arriver des gens qui apportent leur culture. Et puis je dis toujours, parce que moi je suis un peu fan des langues étrangères, découvrir une langue, c'est découvrir une culture, une mentalité. Et il y avait un slogan, vous n'avez peut-être pas connu, c'est une vieille génération, « Touche pas mon pote ». Vous avez connu ce mouvement-là? C'était au moment où il y avait déjà... il y avait un slogan que je trouve admirable, qui résume bien, qui résume très bien. Le slogan qu'ils avaient inventé, « La France, c'est comme une mobylette », fin de la métaphore, « Pour avancer, elle a besoin de mélange ». C'est beau, hein? C'est pas très loin de la devise européenne, que vous connaissez bien, « Unie dans la diversité ». On s'y retrouve toujours, c'est toujours la même chose. Et c'est bien la même problématique. Et l'Europe qui va mal, non pas parce que c'est l'Europe elle-même.
Et justement, pour conclure sur cette thématique du corps européen de solidarité, j'ai posé cette question-là aux jeunes tout à l'heure, mais j'ai envie de te la poser également. S'il y avait un jeune en face de toi qui te disait « j'ai peur, j'ai envie de partir mais j'ai peur », qu'est-ce que toi tu lui répondrais ?
J'aurais envie de lui dire de foncer parce que on pourrait avoir des regrets plus tard puisque la plupart des programmes de mobilité s'arrêtent à 30 ans. Donc c'est le moment ou jamais de partir. Et quand on part comme ça, on ne part pas pour une durée indéterminée. Nos contrats, ils ont une date de fin. Donc voilà. Et puis, on est en 2025. Donc si la peur, c'est de perdre contact avec ses amis, ses parents, il y a toujours les moyens de communication. Si on a peur de la langue, bah, pareil, on est en 2025, il y a les traducteurs sur les téléphones. Enfin voilà, il y a plein de choses à mettre en place justement pour ne pas avoir peur. Et puis surtout, la Maison de l'Europe est là pour les accompagner. Donc ils ne sont pas tout seuls dans cette aventure.
Et alors, pour vraiment terminer, puisque c'est quand même essentiel d'en parler, tu en as dit quelques mots, mais quels sont les critères pour pouvoir prétendre au corps européen de solidarité?
Alors il y a seulement deux critères. Le premier, c'est d'avoir entre 18 et 30 ans, 35 pour les personnes en situation de handicap, et d'être motivé. C'est les seuls critères, il n'y a pas de condition de diplôme ni de niveau de langue.
Et alors imaginons là qu'il y a un jeune qui nous entend et puis qui se dit « tiens, ça m'intéresse, il faut qu'il aille directement voir la Maison de l'Europe à Laval pour avoir des informations et voir ce qui est possible de faire ».
Oui, c'est ça, contacter la Maison de l'Europe, soit se déplacer dans les locaux ou téléphoner, envoyer un mail. Il y a toutes les infos sur notre site internet.
Et bien voilà, c'est la fin de ce voyage radiophonique. À travers une année de volontariat européen, on a entendu des histoires de départ, de première fois, d'incompréhension parfois, et puis surtout de curiosité et de liens qui se tissent. Peut-être qu'en les écoutant, on se dit que l'Europe, ce n'est pas seulement une affaire de traités ou de frontières, mais d'expériences partagées, de visages, de gestes et de petites victoires du quotidien. Merci à vous, les six volontaires. Elena, Luca, Rosé, Jutte, Alba, Giulia, d'avoir ouvert vos carnets de route et vos cœurs. Merci à Ingrid de la Maison de l'Europe en Mayenne d'accompagner cette trajectoire. Et puis merci à Michel Ferron qui était à nos côtés également. Et si cette émission vous a donné envie de partir, de vous engager ou simplement de tendre la main à quelqu'un venu d'ailleurs, alors elle aura trouvé son sens. Cette émission est à retrouver en podcast sur le site internet l'autreradio.fr. C'était Instant Europe en partenariat avec la Maison de l'Europe en Mayenne.
Reconnue centre d'information depuis 2007, la Maison de l'Europe en Mayenne vous propose l'émission Instant Europe.